L'heure des informations avec vous, Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Les 49 migrants coincés en mer sur deux navires d'ONG ont débarqué à Malte. 8 États européens se sont engagés à les accueillir. Certains exilés étaient à bord depuis plus de 2 semaines. Les députés britanniques infligent une défaite au gouvernement au sujet du Brexit. Si le plan défendu par Theresa May est rejeté la semaine prochaine, l'exécutif ne disposera que de 3 jours pour présenter une alternative. Un grand débat, oui. Un grand déballage, non. Le gouvernement s'efforce de recadrer la concertation qui doit s'ouvrir la semaine prochaine. Mais comment les doléances des Français seront-elles prises en compte? C'est encore bien flou, nous dira Rosalie Lafarge. Aucune condamnation n'a été requise au procès du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineur. Une absence de réquisition dans la logique du classement sans suite de l'affaire. Certains d'entre eux étaient en mer depuis plus de 2 semaines. Les 49 migrants secourus par les navires des ONG Sea-Watch et Sea-Eye ont finalement pu débarquer à Malte cet après-midi. Un accord ayant été conclu pour une répartition de ces hommes, femmes et enfants entre 8 pays européens. Les précisions depuis Bruxelles de Quentin Dickinson.
L'accord de ce matin a permis de transborder en mer ces 49 réfugiés, tous originaires d'Afrique, et de les conduire à quai à La Valette, la capitale de Malte. Une grande partie du casse-tête aura été provoquée par le raidissement du gouvernement maltais, qui a encore fait valoir ces dernières heures par la voix de son premier ministre, Joseph Muscat, qu'il était géographiquement le plus petit des pays de l'Union européenne et qu'il hébergeait déjà 249 migrants fraîchement débarqués, dont il exigeait qu'ils soient ajoutés à la répartition des 49. 8 pays européens se sont portés volontaires, dont la France, l'Allemagne et le Luxembourg, mais aussi l'Italie. Clairement, ces solutions improvisées dans l'urgence appellent logiquement à la révision en profondeur des règlements dits de Dublin qui régissent l'immigration en Europe, comme le rappelait tout à l'heure le commissaire européen à la migration, Dimitris Avramopoulos, au micro de Pierre Benazet.
Le règlement de Dublin dans sa forme actuelle fait peser le fardeau sur les épaules de quelques États seulement. Un règlement de Dublin réformé qui amènerait un équilibre entre responsabilité et solidarité est la seule solution structurelle et nous continuerons à pousser en ce sens. C'est le bon moment pour le faire et croyez-moi, c'est une de mes ambitions si je veux léguer quelque chose à l'Europe du futur.
On souligne aussi ici que ces pénibles atermoiements font l'affaire de plusieurs États qui y voient une façon efficace de décourager et les migrants et les associations humanitaires.
Quentin Dickinson. Au Royaume-Uni, le Parlement vient d'infliger un nouveau camouflet à Theresa May. La première ministre britannique avait donné des gages aux députés pour tenter de les convaincre d'adopter l'accord de sortie de l'Union européenne avant un vote décisif le 15 janvier. Mais preuve de leur défiance, les parlementaires viennent d'adopter un amendement obligeant le gouvernement à présenter sous 3 jours un plan alternatif sur le Brexit en cas de rejet du texte. On retrouve Antoine Gignot à Londres.
C'est une double gifle. À 2 reprises, hier soir et cet après-midi, les députés conservateurs rebelles ont voté aux côtés des travaillistes contre le gouvernement. Difficile d'imaginer dans ces conditions que Theresa May va réussir mardi prochain à faire valider l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles par le Parlement. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, promet déjà de lancer une motion de défiance juste après le vote.
La première ministre a passé la semaine dernière à supplier les dirigeants européens de lui donner des assurances et elle n'a rien obtenu. Elle a déjà gaspillé et dépensé des millions d'argent public pour des plans de dernière minute, ni fait ni à faire. Est-ce que la Première ministre va enfin faire ce qu'il faut et laisser le peuple décider en organisant des législatives anticipées?
En face, Theresa May tente une nouvelle fois de rassurer les parlementaires sur la question de la frontière irlandaise. Elle assure qu'elle va obtenir de nouvelles assurances des dirigeants européens sans réellement trouver les mots pour convaincre.
Je le dis très clairement à mon honorable collègue, s'il veut éviter une sortie de l'Union européenne sans accord, il n'a qu'à soutenir un accord, l'accord que nous avons négocié, ça protégera les emplois et la sécurité.
Autrement dit, ce sera ma solution ou le chaos total, car la Première ministre affirme qu'elle ne reculera pas, elle exclut totalement pour l'instant l'idée de repousser la date du Brexit, qui reste fixée au 29 mars à minuit.
En Espagne, le Parti populaire de droite et Vox, le nouveau parti d'extrême droite, négocient depuis hier une alliance parlementaire. Si elle aboutissait, les 12 députés régionaux de Vox voteraient l'investiture du candidat du PP à la présidence de l'Andalousie. Mais les discussions sont rudes. Les premières exigences présentées par Vox sont considérées comme inacceptables et absurdes par le PP. Vox souhaite par exemple expulser 52 000 sans-papiers de la région ou encore abroger les lois contre la violence machiste pour l'égalité homme-femme et pour les droits des homosexuels. La correspondance de Mathieu de Taillac à Madrid.
Certes, la droite s'attendait à ce que Vox vende cher ses appuis au Parlement régional, ses 12 députés sans lesquels le PP ne peut pas réaliser son rêve d'enfin prendre la région au Parti socialiste après 36 ans de pouvoir à gauche. Vox avait prévenu, avant la première réunion d'hier, qu'il voulait revenir sur les lois pour l'égalité homme-femme et contre la violence machiste. Mais tout de même, le PP ne s'attendait pas à un tel panorama, un catalogue de 19 mesures taxé d'inacceptable par la direction des conservateurs et même d'absurde. Parmi ces demandes, des expulsions massives d'immigrés sans papier, l'annulation des larges prérogatives accordées aux puissantes régions espagnoles, dont l'Andalousie donc, des baisses générales d'impôts, la faculté donnée aux parents d'élèves de retirer leurs enfants des enseignements qu'ils jugent contraires à leur propre morale, ou encore la substitution de la fête régionale andalouse par une commémoration de la prise de Grenade aux musulmans. Des revendications qui ont provoqué un petit séisme au PP, il leur manque un boulon, a par exemple réagi le patron du PP au Pays Basque espagnol. Malgré tout, la direction nationale du PP ne veut rien lâcher. La droite a besoin de l'extrême droite pour gouverner l'Andalousie aujourd'hui et peut-être demain pour diriger le pays. Ce matin, le PP a fait parvenir des contre-propositions à Vox. Ils sont en train de céder, veut-on croire, au PP.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Le ciel s'assombrit, prévient la Banque mondiale. Alors qu'elle se montrait relativement optimiste début 2018, elle voit aujourd'hui se profiler de nombreux risques à l'horizon. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, dont les effets se font déjà sentir, menace de nuire encore davantage à l'économie mondiale. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Les prévisions de la Banque mondiale pour 2019 sont donc assez maussades.
Oui, l'an dernier, la Banque mondiale avait intitulé son rapport « Reprise générale, mais pour combien de temps ?» Alors Olivier, relativisons quand même son pessimisme. Croissance, il y a toujours dans le monde. C'est juste qu'elle est plus faible que prévu et à peine plus faible que l'an dernier. Pour le moment, pour le monde, on passe de 3% de croissance en 2018 à 2,9% anticipé en 2019. Les économies avancées passent de 2,2 à 2 et le reste du monde reste stable à 4,2% de croissance. Alors pourquoi ce ralentissement de la croissance? Aux États-Unis et en Europe, c'est lié au fait que les banques centrales cessent peu à peu les injections de milliers de milliards de dollars et d'euros dans l'économie via les marchés financiers, et c'est aussi lié au ralentissement du commerce mondial. La Banque mondiale craint bien sûr une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, car selon ses calculs, les deux pays pourraient perdre un point de croissance chacun si les tensions commerciales entre eux s'aggravent. Or, comme ils pèsent à eux deux 40% du produit intérieur brut mondial, cela aurait un impact sur la croissance du monde entier et on se rapprocherait alors dangereusement de la récession, prévient la directrice par intérim de la Banque mondiale. Cette institution, qui accorde des prêts aux pays en développement, s'inquiète aussi pour les pays les plus pauvres, dont l'endettement public repart à la hausse depuis 2 ans, alors que depuis 2000, ces pays, essentiellement africains, étaient engagés dans une réduction de leurs dettes. Ils font le chemin inverse, gare à la faillite et la dépendance à la Chine, car de plus en plus, ces emprunts sont contractés auprès de Pékin en échange de contrats commerciaux.
Marie Viennot, qui succédera à Joseph Kabila? Les résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo seront connus dans la soirée. Des résultats provisoires, car plus d'un million d'électeurs n'ont pas pu voter à cause du report du scrutin dans certaines régions. Un report qui a provoqué des émeutes et des centres de lutte contre Ebola ont été incendiés. Alors que le pays est en proie à la plus grave épidémie d'Ebola qu'il ait jamais connue, Médecins sans frontières craint une aggravation de l'épidémie si la crise politique devait se poursuivre. À Genève, les précisions de Jérémy Lange.
L'attaque du centre de soins de Beni dans le Nord Kivu, géré par MSF, n'a fait que des dégâts matériels, mais plusieurs porteurs potentiels du virus Ebola se sont enfuis. Les manifestants en avaient plus après les symboles du gouvernement de Kinshasa qu'après les humanitaires de l'ONG. Mais pour Pierluigi Testa, responsable des activités Ebola à MSF, la crise politique actuelle ne joue pas en faveur de la fin de l'épidémie.
Si la crise va continuer, il y aura sûrement plusieurs facteurs qui peuvent faire penser que l'épidémie il continue, voire augmenter. Ces manifestations, ils empêchent une réponse humanitaire, médicale, avec un manque d'accès aux populations. Et le deuxième, c'est que ces violences qui se génèrent surtout dans les plus grandes villes, ils génèrent aussi un mouvement des populations. Et donc, on a les risques de contamination dans les villes ou dans les provinces qui sont voisines à celles affectées par l'Ebola.
Pour les autorités, le report du scrutin dans la région du Nord Kivu est une mesure de sécurité pour éviter la contagion d'Ebola. Ce n'est pas l'avis de l'influente église catholique congolaise qui parle d'agenda caché. Mais qu'il s'agisse d'une mesure de prévention ou d'une décision politique, le risque d'une propagation du virus est bien réel, également avec les pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Au total, 627 cas d'Ebola ont été confirmés ou déclarés probables depuis le début de l'épidémie pour 382 décès.
Le prix Simone de Beauvoir 2019 pour la liberté des femmes a été remis à la salvadorienne Sara Garcia Gross, à la tête du Rassemblement citoyen pour la dépénalisation de l'avortement. Cette femme de 33 ans défend les droits des femmes au risque de sa vie, car le Salvador est un pays intransigeant vis-à-vis de l'IVG, Nadine Epstein.
Sara Garcia Gross défend depuis plus de 10 ans le droit des salvadoriennes à avorter. Un combat laborieux et dangereux dans un pays où les lois sont les plus répressives d'Amérique latine. L'IVG, considéré comme un crime en toutes circonstances, y compris en cas de viol et d'inceste, de malformation du fœtus ou de danger pour la santé de la femme enceinte. Les femmes qui interrompent leur grossesse sont passibles de lourdes peines d'incarcération. La Cour constitutionnelle du Salvador a décrété que les droits de la mère ne pouvaient pas primer sur ceux de l'enfant à naître. Déjà, la protection de la vie depuis la conception avait été inscrite dans la Constitution il y a 20 ans sous pression de la hiérarchie catholique. Qui plus est, même des femmes victimes de fausses couches sont accusées d'avoir avorté et écroué. Sara Garcia Gross combat cette criminalisation de l'avortement en intervenant dans des procès de femmes et dans des mobilisations citoyennes, quelquefois avec succès. Par exemple, l'an dernier, la libération de Teodora Vasquez, condamnée à 30 ans de prison pour homicide aggravé, car son bébé était mort-né à 9 mois de grossesse. Vivre dans un pays qui pratique autant d'interdits, de violences machistes contre les femmes, m'a mené à me positionner naturellement pour défendre les droits des femmes, explique Sara Garcia Gross, lauréate du prix Simone de Beauvoir 2019 pour la liberté des femmes.
Nous serons prêts, assure l'exécutif. Le grand débat national censé permettre de sortir de la crise des Gilets jaunes s'ouvrira bien mardi prochain comme prévu, et ce malgré le retrait de Chantal Jouanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Au cours du séminaire de rentrée qui a suivi le Conseil des ministres, le gouvernement a tenté de cadrer un peu les choses, Rosalie Lafarge, mais malgré ses beaux efforts, ce soir on reste encore dans le flou.
Oui, le gouvernement serait-il en train de patauger ? Pas du tout, à en croire Édouard Philippe.
Nous serons prêts, nous croyons à ce débat, nous pensons qu'il est indispensable.
Le Premier ministre promet un débat ouvert, productif et utile, rappelle quand même qu'il sera très ferme sur le fonctionnement des institutions républicaines. Il se veut en tout cas rassurant, confiant. Même si évidemment, l'abandon à la dernière minute de la pilote du débat Chantal Jouanneau ne facilite pas les choses.
Évidemment, c'est une complexité supplémentaire d'organisation de ce débat. Cela dit, je voudrais dire que ça n'est au fond qu'une péripétie. Ce qui compte, ce ne sont pas les personnes. Ce qui compte, c'est ce débat.
Sauf que les personnes capables de prendre en main ce débat avec sérénité et légitimité, il faut quand même les trouver. Et vite, le débat doit commencer mardi.
Proposer à des personnalités indépendantes, incontestables, d'être les garants de ce débat, ça prend forcément un petit peu de temps.
La réponse a priori lundi, après toute une série de consultations, mais le Premier ministre insiste, l'exécutif sera prêt. Emmanuel Macron fixera le cadre dans sa lettre aux Français, comme prévu en début de semaine prochaine, et le débat sera lancé sans problème mardi, avec une multitude d'instruments pour s'exprimer.
C'est des réunions d'initiative locale, c'est des stands mobiles qui seront mis à la disposition de ceux qui veulent participer à l'organisation du débat. C'est aussi une plateforme numérique, bien entendu. C'est aussi des conférences citoyennes régionales qui permettront à une centaine de Français tirés au sort dans chaque région, à la fin du processus du débat, de pouvoir donner leur avis sur ce qui ressort.
Et Édouard Philippe l'assure, à l'issue du débat, il sera tenu compte de tout ce qui aura été dit.
Rosalie Lafarge. Thierry Mariani a officialisé son départ du parti Les Républicains pour le Rassemblement National. L'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy part en même temps que l'ancien député de la Gironde, Jean-Paul Garot. Les deux hommes devraient figurer sur la liste que Marine Le Pen présentera dimanche pour les élections européennes. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Après cette prise de guerre, est-ce que le Rassemblement National peut en espérer d'autres?
Alors, pour ce qui concerne déjà Thierry Mariani, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il rallie aujourd'hui le Rassemblement National. Il a toujours fait partie de la frange souverainiste et la plus à droite du RPR, de l'UMP, puis de Les Républicains. À l'UMP, il faisait partie de ce qu'on appelait la droite populaire. Aujourd'hui, il dresse donc un constat d'échec pour sa famille politique et opère une clarification. Thierry Mariani.
Je dis qu'aujourd'hui, la stratégie choisie par M. Wauquiez condamne à tromper les électeurs. Si c'est pour reprendre la même alliance avec les centristes, on sait très bien qu'on n'en appliquera pas une partie. Pour ceux qui ont la mémoire, souvenez-vous du discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, immédiatement, certains centristes ont dit « Oh mon Dieu, non, pas ça, c'est dangereux. Donc il faut tout simplement renverser la table, casser la digue, etc. » On n'a plus le droit de tromper les gens. On n'a plus le droit de leur faire croire qu'on va faire un certain nombre de choses une fois au pouvoir et après trouver mille excuses pour ne pas les faire.
En réalité, plus qu'une clarification, Thierry Mariani a bien vu la perte de vitesse dans l'opinion qui frappe les Républicains et son président Laurent Wauquiez. Et parallèlement, la dynamique dans laquelle se retrouve le Rassemblement National actuellement, le Rassemblement National de Marine Le Pen qui lui a proposé une place en position éligible sur la liste pour les élections européennes qui sera présentée dimanche prochain. Ce qui fait dire à l'autre souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a décidé de ne pas rejoindre Marine Le Pen en vue de ses européennes, que le choix de Thierry Mariani est un coup politique sans grande importance.
Thierry Mariani, plus d'affinité avec Marine Le Pen, d'après ce que j'ai vu, je le regrette, mais je vais vous dire, les gens, pour avoir rencontré beaucoup de nos concitoyens, ils attendent absolument pas ça. Nos concitoyens attendent de nous de la rigueur et une espérance. Et je pense que cette rigueur et cette espérance ne viennent pas de coups politiques, mais viennent d'un sillon que nous traçons.
Alors est-ce que ce transfuge peut faire figure d'exemple ? D'un côté, on peut dire que Thierry Mariani est un ex-ministre et un ex-député, et pas un leader de courant. Mais d'un autre côté, il montre là que le Rassemblement National est prêt à faire un peu de place pour accueillir ceux qui se posent des questions. Alors s'il est peu probable qu'il soit suivi en vue des européennes qui se dérouleront dans 4 mois et demi maintenant, ça pourra peut-être donner des idées à certains pour les élections municipales qui auront lieu, elles, l'année prochaine.
Stéphane Robert. Au procès du cardinal Philippe Barbarin et de 5 anciens membres du diocèse de Lyon, la procureure adjointe n'a requis aucune condamnation. Le prélat comparaît pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs commise par un prêtre, affaire qui avait été classée sans suite en 2016. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette au tribunal correctionnel de Lyon.
La procureure de la République semble particulièrement mal à l'aise face aux parties civiles quand elle doit leur annoncer la nouvelle. La position du ministère public est un peu particulière dans ce procès avec citation directe de parties civiles. Le ministère n'a pas estimé nécessaire d'engager des poursuites. Charlotte Trabu enrobe son réquisitoire de multiples précautions oratoires. Le ministère public partage une grande partie des analyses des parties civiles sur le plan sociétal et même sur le plan juridique. Mais elle ajoute que dans cette affaire de non-dénonciation, une partie des faits sont prescrits, ceux avant 2014. On ne peut donc prendre en compte que ce qui s'est passé après 2014. Après cette date, y a-t-il eu non-assistance à personne en péril ? La procureure répond non. Les victimes présumées du père Prénat qui ont parlé, notamment à Philippe Barbarin, étaient majeures. Elles étaient en mesure de porter plainte et le cardinal ne les en a pas dissuadées. Les faits reprochés à Bernard Prénat sont anciens. Les dernières accusations remontent à 1990 et depuis, aucun comportement délictueux n'a été décelé chez ce prêtre, malgré une instruction et des appels à témoins lancés dans les médias. Pour la procureure, il n'y a pas d'éléments tangibles et objectifs pour affirmer que le risque est actuel. Le fait de laisser Bernard Prénat au contact de mineurs ne peut donc pas être poursuivi. Et de conclure, le ministère public doit prendre en compte des intérêts multiples, une réalité complexe, à la fois la protection des plus faibles et l'interprétation stricte de la loi. Cet après-midi, c'est l'interprétation stricte de la loi qui a pris le dessus.
Antoine Marette à Lyon pour France Culture. Air France KLM ne se porte pas si mal malgré l'impact négatif du climat social en France sur son chiffre d'affaires. La compagnie annonce avoir transporté plus de 100 millions de passagers en 2018, une première. Le trafic passager a augmenté de près de 3%. Mais derrière les bons chiffres du groupe, Hakim Kasmi, il y a des disparités et Air France est moins en forme que ses partenaires.
Oui Aurélie, un record certes pour Air France avec plus de 100 millions de passagers transportés, mais qui n'est pas lié directement à la compagnie Air France en tant que telle, mais à sa filiale low cost Transavia et surtout à sa cousine néerlandaise KLM qui tire le trafic pour l'ensemble du groupe. KLM qui bénéficie d'un climat social bien plus stable et d'accords de compétitivité, tire régulièrement le groupe par le haut avec de bons résultats dans le vert et un bénéfice important, ce qui a permis ces dernières années par exemple de compenser les pertes d'Air France liée aux grèves et à la concurrence des compagnies à bas coût et du Golfe. Rien qu'au printemps dernier, la quinzaine de jours de grève perlée chez Air France a fait perdre à la compagnie plus de 350 millions d'euros, soit la moitié de son bénéfice réalisé en 2017, auquel il faut ajouter les 15 millions d'euros perdus avec le mouvement des Gilets jaunes qui a provoqué de nombreuses annulations. Pour la compagnie Air France, en fait, la croissance est surtout venue de l'Amérique latine, avec l'ouverture de nouvelles lignes comme le Costa Rica et au Brésil, un continent sur lequel Air France a longtemps été en difficulté, notamment à cause de la dévaluation des monnaies locales par rapport au dollar. D'ailleurs, les analystes financiers ne s'y trompent pas, car cet après-midi, le cours de l'action Air France à la Bourse de Paris était encore en recul de 1,8%.
Hakim Kasmi, les débris d'un avion de chasse ont été retrouvés dans le Jura. Le Mirage 200D avait disparu des radars en fin de matinée. Il avait décollé de la base aérienne de Nancy-Auchet avec deux militaires à son bord. Demain jeudi, le temps sera souvent gris et faiblement neigeux près des reliefs. Le ciel sera bien dégagé dans le sud-est. Le matin, de petites gelées seront fréquentes à l'intérieur des terres. L'après-midi, il fera moins 1 à 3 du nord-est au centre-est, 3 à 13 ailleurs du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.